Eh bien, ce soir, nous allons commencer une série nouvelle. Je ne sais pas jusqu'où ça va nous emmener. Au sujet de la foi. Dimanche, je ne serai pas là, mais vous aurez une cassette enregistrée. J'ai déjà enregistré la suite de ce message. Comme ça, vous pourrez l'entendre dimanche. Alors, vous avez déjà certainement tous lu 1 Jean 2, 12 à 14, oui ?
Oui, bien sûr.
On va le relire quand même. Alors, on se lève et on va le lire. 1 Jean 2, 12 à 14. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mal. Je vous ai écrit, jeunes gens, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mal. Amen. Alors, on peut lire ça de plusieurs manières. Et il m'est apparu au travers de mes diverses lectures, de mes diverses recherches, que, en fait, il est question là de la croissance de la foi de chaque personne. La foi des petits-enfants, la foi des jeunes gens, et la foi des pères ou parents, si vous voulez. Il y a un verset qu'on pourrait placer avec ce que nous venons de lire, il se trouve dans 1 Corinthiens 15, verset 41, où il est dit « Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Et même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. » Le texte de Paul aux Corinthiens nous parle de différentes sortes de personnes qui se tiendront dans différents endroits avec des degrés différents de gloire dans le ciel. Alors on est bien d'accord, le salut nous est donné comme un cadeau. En réponse à la foi, on n'est pas sauvé par la foi, on est sauvé par Jésus, mais c'est parce qu'on y accorde foi que nous sommes sauvés. Le fait d'aller au ciel a à voir avec notre foi. Mais dans quel endroit serons-nous dans le ciel ? L'autre jour, un frère au téléphone me disait « Ah, mais moi, je ne sais pas où je serai, j'espère que tu viendras me rendre visite. Toi, tu auras un grand château, puis moi, j'espère que tu viendras me rendre visite de temps en temps. » Quelle sorte de couronne, quelle sorte de récompense aurons-nous dans le ciel? Est-ce que nous avons le droit de nous poser la question? Ce que Dieu nous fait comprendre, à nous qui avons la foi, vous qui m'écoutez là sur le net, je pense que vous avez la foi, sinon vous n'auriez pas cherché dans ce site quelque chose, c'est que vous êtes avide des choses de Dieu, vous êtes quelqu'un qui a la foi. Ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que Il veut que nous grandissions jusqu'à la pleine mesure de foi. Alors, est-ce qu'il y a des niveaux de foi ? Comme il y a des éclats différents, le soleil serait les parents, la lune serait les jeunes gens, les ados, les étoiles seraient les enfants. Alors, qu'est-ce que souhaite un pasteur normal ? Normal, qu'est-ce que ça signifie normal ? Eh bien, c'est que chacun de ceux qu'il est en train d'enseigner parvienne à la position de la foi dans toute la mesure de l'esprit et que tous se réjouissent dans une vie éternelle, extraordinaire, dans la Nouvelle Jérusalem. C'est ça. Mais, pasteur sait très bien que ce n'est pas l'enseignement qui va donner la foi, c'est Dieu qui départit à chacun la mesure de foi. Si on lit Romains 12, 3, il est dit « Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Chaque personne a sa foi propre, donnée par Dieu. Chacun a donc ses réponses par rapport à ses bénédictions. Hein? Et tout ça, ça varie d'une personne à l'autre, selon la mesure de foi de chacun. Dans la Bible, on apprend ce que Jésus a fait est donc ce qui nous est possible de vivre à cause de son œuvre à la croix. Nous savons que, par exemple, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, nous avons la foi, ce n'est pas simplement une espérance, nous avons la foi que c'est possible d'être guéri puisque Jésus a porté nos maladies sur la croix. D'accord ? Alors, à cause de ce que la Bible nous dit, de ce que Jésus a fait, nous pouvons savoir beaucoup de choses, des promesses, nous pouvons en être certains. Jésus nous dit clairement, par contre, que nous ne pouvons pas mesurer la foi. Une mesure de foi, mais il dit, on ne peut pas mesurer la foi. Comment est-ce qu'il dit ça? Il dit, tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Comment voulez-vous mesurer le tout? Tout, c'est illimité. C'est illimité. C'est un peu comme si je vous demandais jusqu'à combien vous savez compter. Tout, ça signifie que vous êtes capable de recevoir quoi que ce soit que vous demandez, si vous avez une foi qu'il peut accepter, c'est ça, ma chose. Et la foi que Dieu accepte est ce qui doit occuper notre recherche de base. Qu'est-ce que la foi que Dieu accepte? Qu'est-ce que c'est que ça? Dans Hébreux, chapitre 11, verset 6, il est dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Nous ne pouvons donc pas être agréable à Dieu sans la vraie foi, celle qui lui est agréable. Et rien n'est donc impossible si vous avez la foi parfaite, la foi qui est agréable à Dieu. Alors, on ne peut pas être sauvé si on n'a pas la foi véritable. On ne peut jamais jouir des bénédictions si on n'a pas la foi véritable. Il nous faut savoir qu'est-ce que c'est la foi véritable. Hébreux 11 dit, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alors, on espère tous voir apparaître comme une réalité des choses qu'on n'a pas, des choses qu'on ne voit pas, comme par exemple, je vous dis, la guérison. Mais il y a toutes sortes de choses qu'on ne voit pas. Donc, au départ, la foi véritable, Paul le dit dans Hébreux 11, croit que Dieu a tout créé à partir de rien. Que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On sort des choses qu'on espère, on les sort de rien. Par la foi en Dieu qui crée les choses à partir de rien. Je crois qu'il a créé tout ce qu'il existe, même si je n'ai pas été témoin de cela avec mes yeux. J'ai la foi que Dieu a tout créé à partir de rien, parce qu'il le dit. Ça semble être le béaba. Mais écoutez bien, la vraie foi, c'est de croire que tout peut sortir du néant, tout ce qui existe, c'est sorti du néant, et la vraie foi, c'est de croire ça parce que Dieu dit que c'est ça qui est vrai. Alors, vous pouvez dire, bon, ben, c'est bien, voilà, ça m'amène à où, ça m'amène où tout ça? Si nous croyons que ce que Dieu dit est vrai, alors tout ce qu'il dit est croyable. Tout ce qu'il dit est vrai. Et alors, nous trouvons évident de nous mettre à obéir à ce qu'il dit. Vous voyez? L'apôtre, comme il nous prend. La foi ne peut pas être agréable à Dieu. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, la démonstration des choses. Hein? Et puis, celui qui a la foi, il croit que Dieu a tiré tout du néant. Oui, alors si on croit ça, parce qu'il le dit, alors on croit tout ce qu'il a dit. Et si on croit tout ce qu'il a dit, ben on obéit quand il dit quelque chose. Hébreux 11 nous parle de beaucoup de gens qui nous ont précédés. Ces gens, nous est-il dit, ont été déclarés justes par leur foi, parce qu'ils avaient démontré des preuves évidentes de leur foi. Par exemple, Abel, qui a été déclaré juste parce qu'il a offert à Dieu un sacrifice sanglant qui était agréable à Dieu. Enoch aussi, dont il est dit... Il est écrit qu'il a plu à Dieu parce qu'il était totalement mis à part pour Dieu. Noé aussi, il est devenu l'héritier de la justice. Comment ? En construisant l'arche du salut par la foi. Donc, c'était des gens qui croyaient et qui agissaient. C'était pas simplement croire ou connaître quelque chose et y croire. Ça nous apprend ces choses-là que Dieu approuve dans la mesure où vous lui faites confiance et que vous lui obéissez. Pas simplement croire. L'évidence de la vraie foi, elle est constituée d'actes d'obéissance visibles. Montrez l'évidence de votre foi en obéissant à Dieu. Faites des œuvres qui démontrent que vous faites confiance à Dieu. C'est ça, marcher sur le chemin. Parce que Jésus dit « Je suis la parole », mais il dit aussi « Je suis le chemin ». Marcher sur le chemin, marcher sur le bon chemin, marcher en Jésus, puisqu'il dit « Je suis le chemin », eh bien, c'est marcher selon la parole, sur ta parole, je jetterai les filets. L'apôtre, après avoir pêché toute la nuit, il n'a rien ramassé. Mais Jésus lui dit, va et jette du côté droit. Il y va, il dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Et voilà le miracle qui est arrivé. Parce qu'il a eu confiance, il a fait. Parce qu'il a eu confiance, il a fait ce que Jésus disait. Parce qu'il a eu confiance, il a obéi. Croyance en Dieu, en ce que Dieu dit, plus action basée sur cette parole, égale, voilà, ça c'est agréable à Dieu. Si vous avez des excuses, alors c'est plus la foi vraie. Si vous pensez par exemple, « Oh, c'est trop difficile, Dieu ne peut quand même pas me demander une chose pareille. » Ou si vous pensez, « C'est pas pratique, lavage des pieds, mais c'est pas pratique. Baptême pour les morts, mais c'est quoi ça ?» Puis c'est répétitif au possible, il y a des millions, des millions, des millions. Ou alors, « C'est insupportable, moi je peux pas, Dieu ne peut pas me demander une chose pareille. » Ou alors, « C'est trop cher. » Alors, vous ne pouvez pas recevoir les bénédictions de Dieu. C'est une loi de l'esprit. Si Dieu le dit, vous obéissez, vous discutez même pas. Ça vous paraît invraisemblable, le baptême pour les morts? Ça a apparu comment aux yeux et aux oreilles d'Abraham quand il lui a dit « Prends ton fils et offre-le-moi ton premier-né sur la montagne là que je te montrerai. » Ça lui a paru comment? Incroyable! Abraham, il a reçu de grandes réponses de Dieu parce que sa foi a été approuvée par Dieu, parce que ses œuvres étaient des œuvres d'obéissance. La foi, c'est une puissance illimitée. Un homme de foi, une femme de foi, reçoit ce qu'il demande et il vit joyeusement. Abraham ne murmurait pas en montant là-bas sur le mont, il ne murmurait pas. Une telle personne, une personne de foi, s'applique à plaire à Dieu de plus en plus en faisant des progrès. Une telle personne sait que le monde est indigne d'elle. Et qu'elle est témoin du Seigneur par la puissance de l'Esprit qui est en elle. On va lire Hébreux 11, 33 à 38. Hébreux 11, 33 à 38. Verset 32 déjà. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Seuls les gens dont le monde n'est pas digne de la foi sont capables de renoncer à leur propre vie pour se consacrer à l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Le péché, c'est une chose réglée pour l'homme et pour la femme de foi. Il me dira, bon, ben alors je n'ai pas la foi, parce que moi je pêche. Bon. J'explique. Les péchés sont pardonnés par la foi. Et en cela, c'est une affaire réglée. Si tu crois que Dieu a véritablement envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour que tu sois pardonné, si tu crois ce qu'il dit, alors ton cœur ne te condamne plus. Si ton cœur ne te condamne pas, tu as une grande assurance devant Dieu. Et quoi que ce soit que tu demandes, tu le reçois de lui, parce que tu gardes ses commandements. Et un de ses commandements, c'est Tu dois croire pour être sauvé, tu dois croire pour être béni, tu dois croire pour être agréable. C'est la base. S'il n'y a pas cette base-là, tout est inutile. Vous n'avez plus de crainte parce que l'amour que vous avez pour Dieu bannit cette crainte. Il faut avoir la crainte de l'Éternel. Oui, il faut avoir la crainte de l'Éternel, c'est certain, mais pas la crainte d'être perdu. Vous avez l'assurance de la vie éternelle parce qu'il vous a pardonné vos péchés. Et puis, dans la vie de tous les jours, vous ne vous faites plus de soucis parce que vous savez que Dieu ne veut pas que vous vous en fassiez. Matthieu 6, vous obéissez. Vous ne dites pas, « Oh, mais je ne peux pas ne pas avoir de soucis. C'est plus fort que moi. » Non, non, Jésus ne veut pas. Ne vous inquiétez pas. Laissez ça aux païens. Voilà ce qu'il dit. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Je me rappelle, il y avait un livre qui s'appelait « Votre Père sait ». Et moi, je disais toujours, mais qu'est-ce que c'est que ce bouquin, votre Père sait? Parce que chez nous, un Père sait, c'est une espèce de tournevis, mais ce n'est pas un tournevis au bout, c'est une espèce de... C'est pour percer, vous savez, avant de mettre la vis. Un Père sait, c'est comme ça, on appelle ça chez nous. Alors, un bouquin qui s'appelle « Votre Père sait ». Alors, quoi, votre Père sait? Votre Père sait, du verbe « savoir ». Il sait. Il sait de quoi vous avez besoin. Il veut vous donner tout. Et il le fera, mais à condition que vous vous occupiez premièrement de son royaume et de sa justice. Et ça, vous vous en occupez sans vous faire du souci. Parce que c'est son royaume et c'est sa justice. Vous faites simplement que de maintenir dans votre vie les choses qui sont celles du royaume et de la justice de Dieu. Si vous croyez vraiment, si vous avez la vraie foi dans la parole de Dieu, vous cherchez d'abord, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. C'est normal. Et à partir de là, vous pouvez contrôler tous les phénomènes avec votre foi. L'eau, le vent, toutes ces choses-là. C'est Hébreu qui nous affirme ça, chapitre 10, verset 22. « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Premièrement, d'un cœur sincère. C'est ce que nous sommes ici, j'espère. Sincère. Deuxièmement, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Ce n'est pas trois choses, c'est une chose. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Ayez pleinement la foi que votre vie est pure aux yeux de Dieu. N'ayez pas une mauvaise conscience. Ne permettez pas à votre conscience de venir tout salir. Vos péchés ont été pardonnés, c'est la seule raison valable. Il n'y a pas de raison autre que celle-là qui fait que vous puissiez être dans la joie et dans une grande assurance devant Dieu. Parce qu'en réalité, étant donné que nous marchons de progrès en progrès, si nous écoutons notre conscience, je ne sais pas vous, mais moi, si j'écoute ma conscience, eh bien, elle me met toujours devant une évidence négative et m'accuse toujours d'une chose ou d'une autre, et se rebouillera toujours pour me foutre en l'air ma journée. Pas vous? Bien sûr. Mais... ayez la foi que votre vie est pure aux yeux de Dieu. Dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Vous faites taire votre mauvaise conscience, vous lui affirmez la réalité. Jésus a pardonné mes péchés. Alors, la foi pleine, c'est de recevoir pleinement ce que Jésus nous donne. Et d'y croire pleinement dans le plein pardon de Jésus. Alors la question est, comment se fait-il que tant de gens soient incapables de recevoir des réponses à leurs prières malgré le fait qu'ils disent qu'ils croient au Seigneur? Comment alors? Pourquoi? Réponse, parce qu'il y a deux sortes de foi, une foi charnelle et une foi spirituelle. Alors, la foi charnelle, qu'est-ce que c'est? Ben, je vais peut-être vous choquer, mais la foi charnelle, c'est la foi due à la connaissance. Voilà pourquoi un pasteur normal sait très bien que ce n'est pas son enseignement qui va faire quelque chose. Parce que même au contraire, l'enseignement peut faire du mal. La foi due à la connaissance. La guérison en 3 points. La sanctification en 5 points. Et toutes ces choses-là. La foi due à la connaissance. Pour cette sorte de gens-là, ils ont la foi dans ce qu'ils voient écrit. Vous me suivez? Ils croient dans ce qu'ils voient. et non pas, ils n'ont pas la foi dans la personne aimante de Jésus-Christ. Ils voient qu'il est écrit, par exemple, « Celui qui croit fera les mêmes œuvres que moi et même de plus grandes ». Ils le croient. Mais ils croient aussi ce qu'ils lisent dans, par exemple, dans 1 Jean 3,18. « Celui qui commet le péché est du diable ». Oui, si on croit tout ce qui est dit, bon alors, plus ou moins consciemment, les gens qui ont leur foi basée sur la connaissance, ils disent « Oh, moi je crois vraiment, mais comme je pêche souvent, je ne suis pas parfait, donc je suis du diable. » D'ailleurs, le diable aussi, il croit, hein, comme moi, il croit comme moi. Voilà, le diable, c'est mon père. Voilà. Vous voyez ? Et hop, la conscience se salit. Et la foi charnelle, ça c'est la foi charnelle basée sur la connaissance mal comprise, parce qu'on ne connaît pas la personne, on connaît l'écrit, la lettre tue, l'esprit vivifie. Hein, ces gens qui cherchent toujours la parole de Dieu, ah, quand on est gamin, quand on est bébé spirituel, d'ouvrir la Bible, dit Seigneur parle-moi, puis hop j'ouvre, puis je mets le doigt sur un passage. Ah, souvent Dieu m'a parlé comme ça hein, au début, mais maintenant quand même. Je peux avoir une communion avec Dieu qui m'élève un petit peu au-dessus de cette espèce de magie. Alors, vous connaissez l'histoire. L'homme, il dit, oh, Seigneur, parle-moi, qu'est-ce que je dois faire? Il ouvre, hop, il tombe sur Judas là, se pendre. Il dit, non, c'est pas possible. C'est pas ça que Dieu veut me dire. Il referme sa Bible, il dit, mon Dieu, conduis-moi par ton esprit, que quand je ouvrirai, que je mets mon doigt sur la Bible, sur le verset, ça soit ce que tu veux vraiment. Alors, il ouvre la Bible, il pointe son doigt, il tombe sur le verset. Et toi, va, fais de même. Oh. Non, c'est pas possible, Seigneur. Vous voyez, la parole, ils ont... Il y a une connaissance imparfaite de quelques textes, hors de leur contexte, et ça salit, ça souille leur conscience de qui ils sont, de qui est Dieu aussi. Ces gens-là regardent la parole de Dieu comme infaillible. Ils disent toute la parole de Dieu est la vérité, mais ils ne la connaissent pas vraiment. Alors, ils sont dans l'erreur à cause d'une mauvaise connaissance de Dieu basée sur l'emploi inadapté de certains versets bibliques. Ils ont la foi, mais elle est charnelle, elle est pas selon l'esprit. Cette foi-là, elle tue, comme je vous ai dit. Elle tue. Elle est pleine d'inexactitude, alors elle tue. Et puis, il y a la foi selon l'esprit. Mais cette foi-là, selon l'esprit, elle est donnée par Dieu. Vous pouvez faire les pieds au mur, il ne vous la donnera pas si vous demandez. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous la recevons quand nous nous convertissons, quand nous venons à Dieu, parce qu'il se révèle à nous et il insuffle son esprit en nous. Et voilà que nous recevons notre mesure de foi. Et alors, à partir de là, nous croyons même si nous ne pouvons pas voir avec nos yeux naturels. Et nous sommes d'accord avec Dieu, même si nos pensées, même si nos sentiments, même si notre connaissance des réalités constatées, dit le contraire. L'autre jour, j'étais avec Abdel à la FNAC, et voilà qu'il y avait un CD qui est sorti sur l'épreuve de l'archéologie prouve que la Bible a raison. Et tout. Il dit, oh, ça va être formidable. Je dis, moi, je n'ai pas besoin de preuves. Je m'en fous, moi, de leurs preuves. Bien sûr, je les bluffe un petit peu, parce que c'est vrai que ça, c'est toujours très intéressant de savoir ce que les archéologues ont découvert. Mais ça ne me prouve rien. Je n'ai pas besoin de ça pour être sûr que la parole de Dieu dit vrai, oui ou non. C'est le Saint-Esprit qui a placé ça dans mon cœur. Pour moi, je crois tout ce que la Bible dit. Là, les gens de foi, selon l'Esprit, y croient sans douter que Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole à partir de rien. Et cette foi-là, elle nous est donnée. C'est un don de Dieu. Dieu accepte uniquement cette foi-là. Parce que l'autre, elle est charnelle si ça ne vient pas de lui. C'est quand même pas bien compliqué à comprendre. Dieu accepte uniquement cette foi-là quand elle est accompagnée d'actions en rapport avec ce qu'il dit. Parce que la foi que vous avez, ça vient de lui. Ça ne peut pas venir de vous. Sinon, c'est inacceptable. Si ça vient de vous, c'est inacceptable. Vous êtes mort. Il accepte cette foi. Et sur la base de cette foi qui vous pousse aux actions, alors il garantit votre vie par des réponses, par ses bénédictions. Il considérera que votre foi est spirituelle quand il voit vos fruits, vos actes, et vous bénit Et ça, c'est quelque chose de bien palpable dans votre vie. Par exemple, Paul avait une foi charnelle avant de rencontrer Jésus personnellement. Il avait ses théories basées sur une partie de ce que Dieu avait dit. C'est un homme très croyant, Paul. Mais basé, il croyait certaines des choses que Dieu avait dit. Mais Dieu n'avait pas tout dit encore. Et quand il a rencontré la personne de Jésus, eh bien, il a démoli ses pensées, ses théories de foi charnelle. Il a démoli tous ses arguments qui l'opposaient à Jésus, à la personne de Dieu. Et il est devenu le Paul que nous connaissons. Alors, on pourrait lire Philippiens 3, 7, 9. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, de sa personne. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Et j'ai trouvé en lui, non avec. Et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Vous voyez, la foi elle vient de Dieu, notre justice vient de Dieu, tout vient de Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, Dieu ne l'accepte pas. Alors après avoir démoli la foi charnelle, la foi vraie vient de ce qu'on entend de la parole de Christ, Romains 10, 17. Alors écoutez la parole de Dieu pour vivre la parole de Dieu. Et pour ça, ben, il faut la connaître, il faut la lire, il faut la méditer, il faut se mettre en prière alors qu'on est dans la lecture, dans des moments calmes. C'est normal. La vivre. Pas seulement lire, mais aussi lire, parce que vous ne pouvez pas la vivre si vous ne la lisez pas. Regardez, par exemple, on va dire du mal de lui, il n'est pas là ce soir, Stéphane. Il voulait devenir le pianiste du sanctuary. Il a lu une brochure, il a regardé une vidéo, mais il s'est mis au piano. Il a commencé à jouer, à agir selon ce que son bouquin disait et selon ce que la vidéo lui enseignait du piano. Eh bien, c'est la même chose avec nous. Si on ne fait que de lire, puis dire, oui, je crois, oui, c'est vrai, mais que, bon, ne vous inquiétez pas, oui, je crois, il ne faut pas s'inquiéter, ça ne sert à rien, Dieu sait toute chose. Non, ne t'inquiète pas. Les Juifs au temps de Moïse, par exemple, ils ont entendu Moïse, ils ont vu Moïse faire des miracles. Nombre 14, 11 nous dit, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il » C'est Dieu qui parle. « Jusqu'à quand ne croiront-ils pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ?» On dirait un papa qui dit, « Mais après tout ce que j'ai fait pour lui, voilà, c'est tout ce qu'il est capable. » Non, ce n'est pas possible. Les Juifs, ils connaissaient Dieu. Ils avaient expérimenté sa présence. Ils avaient vu les plaies d'Égypte, ils avaient vu la mer Rouge s'ouvrir. J'ai vu la mer Rouge, hein, c'est vraiment pas rien du tout la mer Rouge. Il fallait l'ouvrir déjà rien que le Nil. Quand j'ai réalisé qu'il l'a transformé en sang, mais c'est immense le Nil, la Seine, c'est rien du tout à côté, hein, je vous promets. Réaliser sa présence, la nuit dans une colonne de feu, le jour dans une colonne de fumée, ils ont vu la manne, ils l'ont mangé. Malgré cela, quand Dieu leur dit d'entrer dans le pays, c'est-à-dire d'agir, ah, ça bloque. Ils n'obéissent pas parce qu'ils ont peur des Cananéens. Et alors, ben ils se mettent à rouspéter contre Moïse parce que Moïse était entre Dieu et eux. Ils avaient une foi charnelle. Ils croyaient, mais ils avaient des raisons de ne pas obéir. On a toujours des raisons de ne pas obéir. « Ah, mais je ne peux pas parce que c'est trop difficile. Ah, mais je ne peux pas parce que je suis trop vieux. Ah, je ne peux pas parce que je suis trop jeune. Ah, je ne peux pas parce que je ne suis pas bien. Ah, je ne peux pas parce que si. Ah, ben, je peux pas. » Voilà. Si vous l'aimez vraiment, vous lui obéissez. Il répondra à vos prières. Il vous conduira dans la vie éternelle, frères et sœurs. Si vous croyez avec la foi spirituelle, vous obéirez, vous deviendrez juste et graduellement, vous commencerez à ressembler au Seigneur. Graduellement. Alors, puissiez-vous posséder la foi selon l'Esprit, accompagné d'œuvres pour obéir à la parole. Alors, vous pourrez lui être agréable et jouir d'une vie remplie de sa puissance, par laquelle toutes choses sont possibles. Amen. Ce n'est pas plus compliqué, mais je pense que c'était nécessaire de le dire. Et dimanche, vous entendrez encore des autres choses à ce sujet pour aller un petit peu plus profond. Quelle est la différence, la mesure de la foi des enfants, des ados et des parents spirituels. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous aider à bien comprendre toutes ces choses afin de les traduire en action, que nous ne restions pas des enfants, emportés à tout vent de doctrine, étant chassés de gauche et de droite par les problèmes, les impondérables de la vie, que notre morale tombe ou se relève, mais que nous sachions toujours être stables. Et lorsque le vent se lève, la tempête se lève, nous ayons la puissance pour dire « calme, tais-toi » et que cette tempête, cette difficulté puisse s'éloigner de nous. Merci Seigneur parce que tu nous donnes cette assurance que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tu attends de nous que la foi que tu nous as donnée grandisse. Merci Jésus. Amen.